Bienvenue sur le podcast Mama et Yayato, prolongement du blog collaboratif Les Maters. Nous parlerons maternité, parentalité et éducation avec nos invités. Le nom que nous avons choisi pour notre podcast est une expression utilisée par les enfants au Cameroun pour accueillir leur mère lorsqu'elle rentre à la maison.
Hello, hello, bienvenue dans ce 11e épisode du podcast Mama et Yayato. Aujourd'hui, c'est une conversation avec Carole du blog Les Gaou et moi, T'éclaire, cofondatrice de ce podcast que vous allez écouter. Pour la petite histoire, je lis le blog de Carole depuis quelques années déjà. Ses partages m'ont permis d'anticiper en quelque sorte mon installation au Canada alors que je vivais au Sénégal. Sa plume drôle et le choix d'écriture dans l'anonymat m'ont définitivement accroché. Quand ce podcast a été lancé, elle figurait dans le top 5 des personnes avec qui je souhaitais échanger. Nous avons donc parlé de sa multiculturalité, de la vie au Québec pour une maman noire, des réalités du quotidien et de son adaptation, de transmission à travers l'éducation de sa fille, d'écriture en anonymat et de racisme. Sans plus tarder, voici Carole du blog Les Gaou. Au micro, je suis T'éclaire et je vous souhaite une très bonne écoute.
Hello, alors moi c'est Carole, je suis togolaise, maman d'une fille en fin trentaine. Je vis à Montréal au Canada depuis 5 ans, avant ça je vivais à Toronto. J'ai aussi vécu en France, au Sénégal, au Togo, enfin j'ai un peu roulé ma bosse et je suis maintenant établie à Montréal depuis 5 ans. Et j'ai un blog qui s'appelle le blog de Gaou, des Gaou, où je raconte mes petites aventures. Je parle de maternité, d'expatriation, de la difficulté à être un peu balancée entre plusieurs cultures. Parce que, comme je disais au début, je suis togolaise, née d'un père d'origine béninoise, mais qui a vécu une grosse partie de sa vie au Togo et au Sénégal, avec une maman d'origine ghanéenne, mais qui a vécu une grosse majorité de sa vie et qui continue de vivre en Allemagne. Donc, donc il faut faire un peu l'équilibre entre tout ça. Et je t'avoue que souvent, quand on me demande d'où je viens, moi-même, j'ai mal à la tête. Parce que c'est parfois compliqué de trouver l'équilibre entre toutes ces cultures. Ouais. Je suis née au Sénégal, j'ai un passeport togolais, maintenant je vis au Canada. Ça peut sembler compliqué, mais en même temps, je me rends compte que dans ma génération, c'est un peu anodin. Je connais beaucoup d'immigrants qui vivent ça. Mais c'est de là qu'est venue l'idée du blog, parce que j'avais du mal à trouver des blogs d'Africains, en fait, qui parlaient justement de toutes ces choses-là. Donc, de l'immigration ici. Je trouvais des blogs de français, mais je ne trouvais pas beaucoup de personnes africaines qui parlaient de cette expérience-là et de la difficulté à faire un peu l'équilibre entre ta culture, les traditions, ce que tes parents t'ont donné et la personne que toi, tu es en train de devenir et la maman que tu aimerais être. Donc voilà comment je me présenterai en quelques mots.
Quel retour tu as de tes partages sur ton expérience de maman ici au Canada? Je précise parce que moi aussi je vis au Canada.
Déjà, en fait, ça fait 7 ans que je suis au Canada. J'ai vécu 2 années à Toronto avant de venir à Montréal. Okay. Pour répondre à ta question, j'ai pas mal de retours assez positifs parce que c'est vrai que quand on immigre avec un enfant, il y a beaucoup d'inquiétudes, n'est-ce pas? Parce que tout seul, tu peux prendre ton sac à dos, tu peux dormir sur le canapé d'un ami, c'est pas grave si tu as pas d'argent, tu peux sauter des repas. On a tous fait ça. Mais quand tu as un enfant, il faut un minimum d'organisation, un minimum d'encadrement. Et je sais que j'ai des retours positifs parce que je donne ma perspective de maman, mais il m'arrive aussi des fois de donner la perspective de ma fille, de son expérience à elle. Et c'est quelque chose que je vais de plus en plus partager sur le blog, justement, parce qu'elle grandit et je la vois changer. Je vois ses expatriations, comment l'expatriation l'a changée aussi, quel rapport elle a par rapport à l'expatriation. Donc, les retours sont plutôt positifs, honnêtement. J'ai pas eu de... J'ai eu que des retours positifs, des expériences, des gens qui étaient rassurés aussi. De voir que c'est possible de partir juste avec sa valise et son enfant et de réussir. C'est quelque chose qui peut sembler assez fou, parce que quand on a des enfants, on évite de prendre des risques. Quand je suis arrivée, j'avais pas de travail, mais on peut réussir, et c'est vraiment les retours que j'ai. Les gens sont un peu rassurés de voir que bon, avoir envie de s'expatrier quand on est maman, c'est pas être irresponsable ou être fou, quoi. Donc voilà.
D'accord. Et est-ce que tu as eu justement des retours de d'autres personnes qui étaient dans ton cas, des mamans, quand je dis dans ton cas, je précise des mamans noires qui ont décidé enfin de venir je dirais pas refaire, mais construire une nouvelle vie ici au Canada.
J'en ai eu quelques-uns. J'en ai rencontré aussi, et les retours étaient quand même assez. C'est assez intéressant parce qu'on partage tous la même inquiétude. C'est beaucoup. Est-ce que le pays est accueillant? Est-ce qu'ils sont racistes? Ouais. C'est les questions qu'on pose souvent, surtout les mamans noires, et souvent c'est des Africaines qui m'ont. Ouais. Et puis aussi beaucoup de questions par rapport à l'environnement, les quartiers, parce que il y a quand même pas mal d'inquiétudes quand tu viens en fonction de l'âge de ton enfant, le quartier où tu vas être, est-ce qu'il va avoir des mauvaises fréquentations, l'école, tu vois, toutes ces inquiétudes normales en fait de parents que tu peux avoir. Et les retours que j'ai eus jusque-là en échangeant avec certaines mamans, c'est comme partout finalement. Au début, c'est difficile parce que tu comprends pas le système, tu connais, tu arrives. En plus, le système canadien est très différent de ce que nous, on connaît. Parce que moi, j'ai quitté le Sénégal, je suis allée en France. J'ai pas eu de très grosses difficultés parce que les systèmes étaient quand même un peu similaires. On va dire, avec la colonisation et tout ça, malheureusement, tu vois. Le choc culturel était un peu moins fort, je dirais, que quand je suis venue ici, où c'est un système anglo-saxon, tout marche pas de la même façon, la culture est complètement différente, surtout que quand on arrive au Québec, on pense que comme c'est en français, inconsciemment, on se dit qu'on va retrouver peut-être certaines choses qui ressemblent à ce qu'on connaît avant, et le choc est brutal, en fait. Mais quand je dis brutal, là, c'est vraiment brutal, donc c'est vraiment ce genre de conversation qu'on a. Et puis aussi, fait assez intéressant, j'ai souvent des questions autour de la pratique de la religion. Est-ce que je peux pratiquer ma religion? Est-ce que c'est ouvert? Est-ce qu'il y a des communautés? Est-ce qu'il y a des associations? Ouais. Donc, tu sais, des inquiétudes classiques, je dirais. Et puis, ce qui est important de garder en tête, c'est que tout prend du temps. Et ne pas trop se mettre de pression. Accepter que ça prend du temps, et j'ai revu des mamans que j'avais rencontrées en arrivant, et puis aujourd'hui, ça va super bien, elles connaissent le système, elles comprennent, elles arrivent à voir, elles savent où aller. Donc, je dirais, c'est vraiment ça, c'est vraiment une question de se donner le temps, et puis accepter aussi que on n'est pas omnipotent et qu'on a besoin d'aide. Donc, demander de l'aide, pas rester dans son coin. Moi, je dirais aussi une des plus grosses inquiétudes qu'on a quand on arrive ici par rapport à son enfant, c'est la scolarité. Est-ce que je vais pouvoir l'accompagner? Est-ce que je vais comprendre? Est-ce que je vais aller chercher les bonnes ressources? Donc, demander de l'aide et se diriger vraiment vers les personnes compétentes. Parce que c'est bien de discuter avec le voisin et... les gens qu'on peut voir sur Internet qui vont vous conseiller, mais aussi, je dirais, c'est très important d'aller dans les organismes compétents parce que souvent, c'est la source d'information qui est fiable. Et c'est ce qui est bien ici, c'est que tu as toutes les informations en ligne et tu peux trouver l'information. Voilà.
Donc, oui, c'est clair que quand on arrive ici, on a toujours et qu'on n'a pas vécu ici, c'est toujours bien en fait d'avoir une référence déjà. Et moi-même, avant de venir m'installer au Canada, comme je disais, je lisais déjà ton blog et tu partageais déjà tes aventures, notamment à Toronto. Et je dirais que ça m'a donné quand même une petite idée. Et de savoir aussi c'était quoi tes origines, donc je savais que quelque part il y avait une espèce d'expérience commune qu'on pourrait avoir, quoi. Donc je pense que c'est une très bonne chose d'écrire. C'est vu que moi aussi j'aime beaucoup écrire, donc je me retrouve aussi. Je sais que tu as choisi l'anonymat justement dans tes écrits. Pour d'autres mamans, en fait, nous aussi on encourage ça parce qu'on sait que les thématiques, notamment liées à la maternité, sont considérées pour certaines encore un peu comme tabou, où beaucoup de femmes ont peur de s'exposer, en fait. Et donc on propose aux contributrices, à certaines contributrices, si jamais elles ne veulent pas signer leur texte, qu'elles peuvent justement juste les publier en anonyme, quoi. Donc, oui, par rapport à l'anonymat, tu as fait ce choix, en fait. Est-ce que c'est pour ces raisons-là? C'est pour avoir ta tranquillité d'esprit ou,
Je dirais que c'est un peu un mixte parce que, oui. Un mixte parce que sincèrement, le choix de l'anonymat, ça a été un choix évident pour moi. Non pas parce que j'avais peur ou quelque chose. Les gens savent qui je suis. Quand on me contacte, j'ai pas de problème à montrer mon image. Je pense que tu m'as déjà vu. Je dis mon prénom et tout. Mais par rapport au blog, c'était vraiment pour protéger ma fille aussi. Parce que elle a le droit à son anonymat et elle a le droit de choisir comment elle arrive sur Internet. Donc, je parle d'elle, mais c'était important pour moi d'être anonyme par rapport à ça, parce que je ne voulais pas qu'elle soit que les gens en fait aient une image d'elle. En fait, je vais t'expliquer. Je vais prendre l'exemple, par exemple, il y a pas mal de célébrités qui vont avoir des comptes. Je ne suis pas une célébrité, ce n'est pas ce que je suis en train de dire.
Vas-y, il n'y a pas de problème. Hein. Je prends les autographes après.
Et ils vont ouvrir des comptes pour leurs enfants et tout ça. Et je sais que souvent, je regardais ça. Je suis quelqu'un, je regarde, j'aime regarder. Je trouve ça très esthétique, c'est joli. Mais il m'arrivait souvent de me poser la question de dire, quand tu ouvres un compte pour ton enfant et que tu le catalogues finalement, on va dire, je sais pas moi, je pense à Shady Baby ou Funny Baby. Et l'enfant a cette image-là que les gens s'attachent à cette image. Qu'est-ce qui arrive si l'enfant n'est pas comme ça? Et je sais que souvent, quand je vais parler de mon enfant, je vais décrire juste une partie de qui elle est, parce que le blog, c'est vraiment une infime partie de notre vie, une infime partie de notre vie. Et je voulais cet anonymat-là, un, pour sa sécurité, et deux aussi, pour qu'elle choisisse, elle ait le luxe, entre guillemets, de choisir plus tard qui elle veut être sur Internet, et qu'elle n'ait pas déjà cette personnalité que sa mère a préfabriquée et qui lui colle à la peau, parce que c'est difficile après d'enlever cette image-là, une fois qu'on s'est bâti une image sur Internet. Je vois, par exemple, mes parents disaient souvent que je suis quelqu'un de très gentil, je suis quelqu'un de très impulsif, mais je ne suis pas que ça. Mais c'est ce qui est resté, c'est ce qui reste. Et tu vois, souvent les gens, quand ils lisent le blog, ils disent elle est très très drôle, elle est très très drôle. Mais je ne suis absolument pas drôle. Si tu demandes à mes proches, je ne les fais pas rire. Donc, C'est juste une petite partie de ma personnalité et c'est dans cette idée-là que j'ai choisi l'anonymat parce que aussi les sujets que j'abordais ne nécessitaient pas forcément qu'on voit mon visage ou que je me, tu vois, c'est pas un blog mode, c'est pas un blog et je pense que tu as pas besoin de savoir à quoi je ressemble nécessairement pour pouvoir être intéressée par les sujets que j'aborde. C'est des sujets universels, hein. L'immigration, malheureusement le racisme quand on est une femme, quand on est noire. Ce sont des choses en fait où tu n'as pas forcément besoin de savoir à quoi ressemble la personne. Mais par contre, je trouvais que c'était important de savoir que je suis une femme noire. Et africaine, parce que si j'avais été peut-être afro-américaine, mon expérience et mon approche auraient été différentes. Donc, c'est toutes ces choses-là que, et c'est pour ça, en fait, que j'ai choisi l'anonymat, je te dirais. C'était pour ça que c'était important.
D'accord. Justement, tu disais, tu es une femme noire. Ici, au Québec, on dit minorité visible. C'est, si je me trompe pas, oui, c'est minorité visible.
Je suis une minorité visible voilà. Et visible de par mon accent. Donc, parce qu'ils ont la visibilité audible aussi, si tu as pas l'accent.
Donc, minorité visible, justement, et tu l'as mentionné que tu venais de, enfin, de plusieurs autres cultures à, notamment par rapport à tes parents, aux origines de tes parents. Et donc, comment tu fais justement pour transmettre cette partie de ton histoire dans l'éducation de ta fille que tu as mentionné tantôt, dans un environnement où elle est également minoritaire?
Alors, c'est la première chose que j'ai acceptée quand je suis devenue maman, c'est que ma fille allait avoir une version édulcorée de ma culture. Parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir un père, une famille autour. Je vivais en Afrique. Mon père, c'était très important pour lui de m'inculquer la culture togolaise. C'était même une obsession. Il nous emmenait au village. C'était obsessionnel. On parlait la langue. Il nous emmenait au village. Il nous a expliqué les rites, les traditions et tout ça. Et très tôt, j'ai remarqué que malgré cette obsession, ma sœur et moi, on a eu deux approches différentes. Moi, j'étais très intéressée à l'histoire de la famille, l'arbre généalogique, la langue. Ma sœur, ça l'intéresse pas plus que ça, mes frères non plus. Par contre, ils ont été très intéressés à la nourriture, tout ce qui est culture, les livres, le cinéma africain, toutes ces choses-là. Mais l'histoire du Togo, l'histoire de la famille, les rites et les traditions, ça les a pas intéressés. Donc très tôt, j'ai compris que la transmission de la culture, c'était aussi, oui, j'allais faire ce que je pouvais, mais il faut aussi que la personne que j'ai en face, parce que l'enfant est un être humain à part entière, avec son caractère, il fallait qu'il soit réceptif. Et si j'ai un enfant qui n'est pas réceptif, ça pouvait être assez difficile de lui transmettre ma culture, d'autant plus que on vit dans un pays qui est d'une culture différente. Donc, c'était important pour moi d'accepter ça pour pas être, je vais utiliser le mot déçu, parce que c'est le mot que je trouve, pas être déçu. Donc, une fois que j'ai accepté qu'elle allait avoir une version édulcorée, ça a été plus simple et donc j'ai eu accès à pas mal de choses. Déjà, je te dis, j'écris pas mal de choses que mon père m'a transmises. J'ai commencé à l'écrire, donc elle a ce journal-là. Je m'arrange aussi pour qu'elle soit en contact avec la famille. Donc, c'est aller en vacances, aller dans la famille, appeler souvent. Et puis aujourd'hui, avec Internet, on a quand même accès à pas mal de ressources, donc ça aide pour transmettre ces cultures-là. Et je pense que c'est ce qui est important pour moi, qu'elle en a un peu. Je sais qu'elle l'aura pas à 100%. Elle vit dans un environnement différent. Son père est d'une culture différente. Donc, je savais qu'elle allait pas être 100% togolaise comme moi. Mais je lui transmets ce que je peux. Je fais le maximum. Et après, elle prend ce qu'elle veut finalement, parce que il y a des choses qui vont l'intéresser, il y a des choses qui vont pas l'intéresser, et je le vois très clairement.
Au moment où nous enregistrons cet épisode, le mouvement Black Lives Matter continue de mobiliser les communautés noires aux États-Unis suite au meurtre de George Floyd. Le Canada n'est pas en reste dans la vague de dénonciations et conscientisation sur les questions liées à la brutalité policière et au racisme. Cependant, l'ampleur n'est pas la même car les réalités sont un peu différentes. Entre prise de conscience réelle et activisme de façade, le débat est plus que jamais d'actualité. Les médias en parlent, les politiciens promettent du changement, les grandes compagnies font de grandes déclarations et des ajustements. Dans la réalité, comment les personnes issues des minorités visibles comme nous vivent-elles ce racisme au quotidien? Entre le talk à avoir à donner à son enfant et les biais du quotidien, les micro-agressions, nous avons échangé sur le sujet. Pour moi, immigrée récente, mon expérience est différente, pour l'instant. Même si je pourrais citer des micro-agressions vécues ici et là, je suis très loin de l'expérience des personnes noires qui vivent ici depuis plusieurs années ou qui sont nées ici. Je m'éduque donc sur le sujet et je soutiens comme je peux les causes, car je sais que le racisme est bien réel. J'ai donc une pensée pour toutes les victimes des brutalités policières, une pensée pour les familles de ces dernières et pour toutes les personnes qui mènent le combat de la lutte contre le racisme. Car si chaque vie compte, la vie des Noirs devrait aussi compter au même titre et ne plus être sans cesse l'objet de hashtags et de vidéos morbides de crimes relayés en boucle sur la toile. Dans l'extrait qui suit, Carole répond à la question « Comment parler de racisme avec sa fille ?»
J'en parle très naturellement en fait, parce que malheureusement, le racisme fait partie de sa vie depuis qu'elle est bébé, donc c'est quelque chose dont elle est consciente. On a eu le fameux talk que les parents ont avec leurs enfants, je pense qu'elle devait avoir 4 ans, parce que il y a eu un événement qui l'avait beaucoup choquée, donc il a fallu qu'on en parle, donc c'est une conversation qui est naturelle, et en plus, ma fille, le père de ma fille est blanc. Du coup, très tôt, elle a pu voir les différences de traitement qu'elle avait quand elle est avec son père, la différence, la façon dont son père est traité et comment moi je suis traitée quand on est ensemble. Donc c'est quelque chose dont elle est très consciente et c'est une conversation qu'on a, on a souvent et encore plus depuis qu'on est ici au Québec, parce que quand on est arrivé ici, une des particularités, c'est que les gens sont persuadés que le racisme n'existe pas ici. Et c'est d'une violence sans nom, parce qu'on est tout le temps dans la négation de ton expérience, en fait, dans le déni de ton expérience. Et elle vivait des choses à l'école et on lui expliquait que non, ça n'existe pas, ça peut pas se passer ici, on n'est pas aux États, on n'est pas aux États-Unis, il n'y a pas eu d'esclavage, il n'y a pas de racisme, donc non. Et très tôt, elle a été très choquée par ça parce que quand tu es en train de vivre du racisme, tu le vois, tu le sens. C'est quelque chose, malheureusement, qu'on a tous connu. Et quand tu as en face de toi quelqu'un qui est dans le déni de ton expérience et de ton humanité, c'est très violent. Pour moi, en tant qu'adulte, c'est très violent. Alors, j'imagine même pas pour un enfant à quel point c'est violent. Et il y a même eu un épisode où on lui a demandé de s'excuser parce qu'elle avait été agressive face à une camarade qui venait de lui tenir des propos racistes. Donc, voilà. C'est une conversation qu'on a et on en parle. Je lui en parle tout naturellement parce que pour moi, c'est important qu'elle soit au courant. C'est important qu'elle sache qu'elle a le droit d'être en colère, elle a le droit elle a le droit de ressentir les émotions qu'elle ressent. Donc, ce sont des conversations qu'on a et elle est très consciente de ça et malheureusement, c'est difficile pour moi en 2020 d'être encore à avoir ces conversations que ma mère a eues avec moi, que ma grand-mère a eues avec ma mère, d'avoir ces conversations-là avec ma fille. Mais c'est important aussi de lui en parler parce qu'elle voit la différence de traitement et c'est important de répondre à ces questions parce qu'elle voit aussi, et je sais que c'est quelque chose qui est terrible quand même, mais elle voit aussi la différence de traitement entre elle qui est claire de peau et moi parce que je suis très foncée de peau.
Ouais.
Et voir cette différence de traitement, c'est quelque chose qui est assez difficile parce que elle, pour elle, je suis sa maman, tu vois. Enfin, elle veut pas dire. Mais quand on arrive à des endroits et que elle a des commentaires du style elle a de la chance, son nez est plus fin que le mien ou que elle a pas une bouche, elle a des traits plus fins. C'est quelque chose qui est très violent. Donc, je n'ai pas d'autre choix que d'avoir cette conversation avec elle, malheureusement.
Ouais. Non, j'imagine, c'est vraiment, c'est quelque chose, en tant que parent noir, en fait, on aurait aimé tout ça, ne pas avoir à passer par là, mais.
Oui, surtout que.
On vit dans la réalité, oui, oui.
Non, oui, c'est ce que j'ai, et puis, d'autant plus que tu es obligé de les arracher, en fait, à l'innocence de l'enfance, ah, parce que les choses que le racisme est d'une violence, c'est violent, les micro-agressions, c'est d'une violence sans nom. Quand tu te fais moquer, pour la couleur de ta peau, c'est d'une violence sans nom. Là, on est en confinement, plusieurs fois, on a eu ici des expériences où quand on va dans les magasins, ils te disent que c'est une personne par famille ou une personne avec un enfant. Et quand moi, j'arrive avec elle, on me dit qu'elle ne peut pas rentrer, alors qu'on voit des parents blancs sortir avec leurs enfants qui ont son âge ou qui, des fois, ont l'air plus grands. Donc, quand j'y vais avec elle, il y a des magasins où on ne nous laisse pas rentrer. Et quand elle retourne des fois dans le même magasin avec son père, il rentre. Ça, c'est elle qui me l'a dit. Elle a pu rentrer à certains endroits. Donc, c'est un sujet, malheureusement, qu'on ne peut pas éviter. Donc, je suis obligée de lui en parler. Ce n'est pas quelque chose que j'aurais préféré vivre dans un monde où je n'aurais pas besoin d'avoir cette conversation avec elle. Mais je suis obligée, surtout ici, où souvent elle se pose la question, mais pourquoi on me dit que ce que je ressens, c'est pas vrai? Pourquoi on me dit que ce que je vois, c'est pas vrai? Donc, tu es obligé de lui parler, de lui expliquer que c'est quelque chose qui existe et que elle perd pas la tête, en fait. Et que oui, ça existe. Et que oui, non, c'est du racisme. Et que oui, ce sont des injustices et que ce n'est pas normal.
Tout à fait. Et le fait qu'elle voit justement, qu'elle te voit prendre position, manifester, verbaliser en fait cette réalité-là, est-ce que tu penses que ça a son importance justement de montrer aux enfants qu'ils ont le droit de dire non, que c'est injuste, de pointer du doigt et qu'ils peuvent changer les choses en agissant?
Oui, c'est très important pour moi parce que moi je viens en fait, j'ai des parents qui pendant longtemps n'ont rien dit, te disaient il faut avoir un, si tu as des bonnes notes, il faut bien t'habiller, fallait pas trop parler avec l'accent, quand tu sais vraiment effacer un peu sa personnalité. Et pendant des années, j'étais cette personne qui faisait attention à pas parler trop fort, à pas faire trop de bruit, à pas déranger, à chanter je vois pas les couleurs, on est tous les mêmes, à dire c'est pas grave, je veux pas jouer le jeu des racistes, faut que je fasse doucement. Et tu es tout le temps en fait en train de te faire, c'est même pas se faire petit en fait, d'essayer de rentrer dans une espèce de, je sais même pas comment décrire ce truc qui est d'une violence sans nom, pour correspondre à une image en fait qui est pas la tienne, pour qu'on puisse reconnaître ton humanité. Et j'ai eu en fait tout un cheminement où j'ai réalisé que ça servait à rien en fait, parce que tu fais tout ça mais ça change rien. À la fin de la journée, le système raciste, il te voit comme noir, que tu sois docteur ou que tu parles sans accent, il te voit pas. En fait, le déni de ton humanité est constant. C'est de là aussi qu'est venue l'idée de mon blog et que le nom de mon blog, je l'ai appelé le blog des Gaou parce que j'estime que j'ai le droit d'être une Gaou. J'ai le droit d'être Gaou si je veux. J'ai le droit d'être. Je sais que quand j'étais plus jeune, souvent on se moquait tu sais, le cliché du villageois dans les transports qui va être en boubou. Et je trouvais pas ça vraiment normal. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça change si je suis en boubou tant que je paye mes impôts et que je ne fais rien d'illégal? Qu'est-ce que ça change? Donc, c'est pour ça que c'est important pour moi d'être très, on dit, de parler et de dire ce que je ressens.
Oui.
C'est pour ça aussi que je poste des articles sur le racisme sur mon blog. À chaque fois, je me prends des déferlantes d'insultes, mais je vais continuer parce que c'est important. Parce que je pense qu'il est temps que les choses changent et que c'est vital, quoi. On peut plus continuer comme ça, on est fatigué. Donc voilà.
Justement, ce que tu dis par rapport aux commentaires que tu reçois sur ton blog concernant les thématiques liées au racisme, j'ai fait le même constat en lisant d'autres médias aussi. Quand on parle de racisme ou notamment dans cette période-ci actuelle que nous vivons, où il y a beaucoup d'articles sur le sujet, notamment au Canada et plus précisément au Québec où nous vivons, je vois les commentaires, c'est 8 commentaires sur 10 en fait, c'est des commentaires pour invalider l'expérience.
Et c'est des commentaires haineux. Je pense que mon premier vrai billet où je parlais de racisme doit dater de 2013 ou de 2014 par là. Mmh. Et c'est un des billets les plus lus. Mais les insultes que j'ai reçues, enfin, j'ai tout eu. Hein. On m'a traité de singe, peste noire, voilà. Et le truc en fait qui est fascinant, quand tu arrives ici en tant qu'immigrant, parce que moi quand je suis arrivée au début, j'avais l'impression que c'était un peu mieux, tu sais, parce que j'arrivais de France où là-bas, en fait, c'est très direct. On t'agresse au quotidien, on t'agresse tout le temps. Quand tu es dans des lieux où on a l'impression que tu dois pas être, c'est vraiment très... tu le ressens tout de suite.
C'est pas possible.
Ouais, et quand je suis arrivée ici, j'avais la fausse impression que c'était moins pire, si je puis m'exprimer ainsi. Et puis quand tu passes du temps, tu commences à découvrir les militants locaux, tu commences à voir la situation en fait des autochtones, tu commences à remarquer en fait que non, on te suit dans les magasins. Ça c'est quelque chose qui m'est arrivé avec ma fille, où elle m'a demandé une fois, elle m'a dit « Maman, pourquoi la dame nous suit ?» Et tu réalises que non, en fait... oui, on te suit parce qu'on a peur que tu voles quelque chose. Tu commences aussi à rencontrer des gens qui ont vécu ici. Moi, mon premier réveil, ça a été, je suis allée voir le film Ouvrir la voie de la réalisatrice Amandine Gay, ici à Montréal. Et à la fin de la projection, tu avais plein de femmes noires québécoises qui expliquaient qu'elles se retrouvaient dans le film, elles se retrouvaient dans l'expérience. Et moi, ça avait été un choc. Parce que de mes petits yeux d'immigrante qui venait d'arriver en France, je pensais que c'était mieux ici. Et ça a été, je pense, le premier vraiment contact où j'avais eu des discussions avec des personnes noires nées ici, qui ont grandi ici, et qui se retrouvaient dans une expérience qui était la mienne, en fait. Et c'est ce qui m'a poussée à m'éduquer sur la question et à voir. Et j'ai découvert plein de militants, plein de choses. Et quand tu creuses, tu réalises que non, c'est pas mieux qu'ailleurs, en fait. C'est différent. C'est pas mieux. C'est différent. Et il faut que les choses changent ici aussi. Donc, c'est important pour moi, en tant que maman, de faire ça parce que j'estime que les générations d'avant ont assez souffert. Nos enfants doivent avoir la paix, sincèrement. Et il faut que ça change.
Il faut que ça change, définitivement. Et donc, pour revenir sur une note un peu plus, on va dire... oui, positive. Selon toi, c'est une question que... Je pense que j'ai déjà eu à poser. Selon toi, est-ce qu'on est mère ou on le devient?
Je ne pense pas qu'on est mère. Je pense que la maternité est un cheminement et que ça varie en fonction de plein de choses. Le moment de ta vie où tu te trouves, les gens qui t'entourent aussi, l'environnement où tu es. Je pense que c'est un cheminement et je pense que c'est un cheminement personnel. On ne naît pas mère et on le devient oui, ou on ne le devient pas aussi, parce que il y en a, moi j'ai une amie très très proche qui a réalisé avec le temps qu'elle avait un non-désir de maternité, qu'elle ne voulait pas être, maman, par exemple. Donc, et moi, mon approche de la maternité a été un cheminement. Donc, je pense vraiment que c'est un cheminement qui est personnel et qui est unique à chaque femme, en fait.
Ouais. Justement, par rapport au non-désir de maternité, on avait enregistré un podcast avec Tibora qui parle de ce sujet-là. Et merci pour ta réponse, pour cette réponse-là. Et donc, pour terminer, quel livre, article ou compte sur les réseaux sociaux ou alors ou série, qu'est-ce que tu recommanderais à d'autres personnes qui s'intéressent justement au sujet de la maternité, qui voudraient un peu plus se documenter justement sur la maternité des femmes noires?
Comme recommandation, je dirais, il y a un compte que je suis depuis peu qui s'appelle Bayoumou. Elle a une rubrique qui s'appelle Parole de femme, où elle donne la parole aux femmes. Elle est aussi ici au Canada. Donc ça, c'est un compte que je recommanderais. Elle fait plein de trucs. Elle a lancé récemment un podcast où elle donne la parole aux expatriés, aux repates. Donc ça, c'est un des comptes que je recommanderais. Je dirais aussi, il y a le compte de Best of D, Daniel, qui est pas mal. Elle parle beaucoup de maternité et de parentalité positive, en fait. Et j'aime beaucoup ce compte. J'aime beaucoup son compte. Donc ça, c'est les deux recommandations que je pourrais faire pour ce qui est des comptes qui parlent de maternité. Après, je pose souvent aussi des livres, des choses comme ça. Donc, si j'ai d'autres recommandations, je te les enverrai. Mais ces deux-là, je trouve que c'est un bon début.
Donc, merci beaucoup. En tout cas, on mettra les noms et puis les liens quand le podcast sera posté. Et donc, pour terminer, donc où est-ce qu'on peut te trouver? Je te laisse donner les références où est-ce que les auditrices et les auditeurs qui voudraient en fait voir en fait ce que tu produis comme contenu, où est-ce qu'on peut te trouver?
Ah, je suis partout. Alors.
Oui, vas-y.
Plus sérieusement, alors on peut me trouver sur Instagram, j'ai un compte qui s'appelle Les Gaous. Ouais. Sur Internet, mon blog, c'est leblogdesgaous.com. Je suis sur Twitter aussi, Les Gaous, et sur Facebook, à Le Blog des Gaous, sur Facebook. Donc, c'est là où on peut me trouver. Je suis active sur les réseaux et puis voilà, donc je poste sur le blog, sur Insta, sur Twitter, sur Facebook. Donc la plateforme qui vous convient le mieux, c'est je suis sur ces quatre différents réseaux.
Voilà. Donc c'est super. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps d'échanger avec nous et c'était vraiment une belle conversation. Merci aux auditrices et aux auditeurs donc de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis à bientôt Carole.
Merci les matères. À bientôt.
À bientôt. Bye.
Bye.
Merci à Carole pour cette conversation enrichissante. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à mettre de belles étoiles dans les notes de podcast, à nous laisser des commentaires. N'hésitez pas également à poursuivre la conversation autour de la maternité sur www.lesmaters.com, notre blog, et sur nos réseaux sociaux sur Instagram et Twitter. C'était Éclair au micro et je vous dis à très bientôt au prochain épisode.